Delphine Deschamps-Martel, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes avocate, vous avez créé une société spécialiste de la e-réputation pour notamment les dirigeants à profession réglementée et d'autres encore effectivement personnalités. On va parler avec vous de ce sujet qui est un sujet qui devient de plus important pour les dirigeants et pour beaucoup d'entreprises. Peut-être pour commencer, on peut dire aujourd'hui qu'Internet est incontournable et qu'on doit la e-réputation, il va falloir l'étudier de près.
Bien sûr, l'Internet, l'image Internet d'une personne est devenue maintenant incontournable. C'est-à-dire que l'on veuille ou non, on apparaît sur Internet. Donc, une demande d'article de presse, un rendez-vous, une conférence, tout cela génère des recherches sur vous sur Internet. Donc, vous êtes obligé de gérer, je dirais, votre image pour ne pas laisser un espèce de blanc. Comme ça, parce qu'en fin de compte, Internet a complètement révolutionné les usages de la communication. Avant, on avait une attitude proactive en allant vers un média et on sollicitait ce média. Or, maintenant, vous pouvez apparaître sur Internet sans le vouloir. Alors, ça peut être très positif parce que ça élargit votre base et vos possibilités de communication, mais c'est aussi une grande prise de risque.
Alors, on peut dire que l'usage des médias a été complètement bouleversé par Internet.
Tout à fait, ça a complètement changé la manière d'envisager les médias et de se positionner face à ces médias. Et donc, en fin de compte, maintenant, un dirigeant, une personnalité est obligé de gérer son image Internet pour pouvoir, je dirais, veiller à son image et avoir une attitude professionnelle à l'égard de celle-ci.
Alors, on parle beaucoup des risques d'Internet. Voyons-en peut-être d'abord les atouts. Qu'est-ce que ça peut amener pour le dirigeant, pour la personnalité Internet? Il y a quand même des atouts à cette médiatisation.
Alors oui, tout à fait. D'abord, une chose, avant, beaucoup de dirigeants vous répondaient, moi, je fais la politique de l'autruche, rien n'apparaît sur Internet, c'est parfait. Maintenant, ce n'est plus possible, ça devient suspect. Si on ne trouve pas des photos de vous sur Internet, on se demande pourquoi. Et si on ne trouve pas un descriptif professionnel de votre parcours, d'où vous venez, les écoles que vous avez fréquentées, les universités, ça devient suspect. Donc, un dirigeant se doit maintenant de vraiment décrire, je dirais, sa vie professionnelle sur Internet. Bon, après, évidemment, il y a la limite où on ne doit pas passer trop dans la vie privée. Mais un dirigeant qui ne gère pas son image se met en risque.
Quelque part, si on cherche aujourd'hui un nom de dirigeant qu'on ne trouve pas de profil sur Internet ou de bien identifié, ça veut dire qu'il a, à ce jour, raté sa stratégie Internet?
Et il a raté sa stratégie Internet, c'est suspect et il perd en légitimité. Cela peut être un excellent dirigeant, quelqu'un qui a fait un parcours sans faute, qui est extrêmement brillant, mais il y a toujours une suspicion de véracité, entre guillemets, de ce qu'il prétend quand on le rencontre, parce qu'on n'arrive pas à le vérifier sur Internet.
Comme s'il avait des choses à cacher, ce qui ne sera
Voilà.
pas forcément le cas, ce qui n'est pas
Voilà.
forcément le cas, mais on.
C'est assez étonnant. C'est-à-dire que, en fin de compte, Internet est un média que l'on peut contrôler, donc on peut décrire des choses, mais si on n'apparaît plus sur Internet, cela devient négatif pour le dirigeant.
Alors, on a parlé des atouts, il y a aussi bien entendu des risques. Alors, les risques, on en voit quelques-uns, on en soupçonne quelques-uns quand on voit des commentaires, quand on voit effectivement des critiques, voire plus, sur telle ou telle personnalité.
Alors, toute nouveauté est diabolisée. D'abord, ça c'est un principe. Alors effectivement, on ne va parler que des risques. Effectivement, sur Internet, vous pouvez avoir un article qui apparaît sur vous sans que vous en soyez prévenu. Ça, c'est une difficulté. D'accord? Avant, un journaliste venait vous interviewer, donc vous saviez que quand est-ce que ça allait paraître. Deuxièmement, les propos diffamatoires, calomnieux ou même désagréables sont beaucoup plus difficiles légalement à faire. À obtenir un droit de réponse et à faire retirer. Le droit de réponse et le droit de retrait sur Internet sont encadrés légalement dans des conditions qui sont quand même assez spécifiques. Elles sont longues et hasardeuses, ces procédures de retrait. Donc le temps que vous obteniez votre droit de retrait, le mal est déjà fait sur Internet, parce que ça part très vite.
Alors, quelque part, nous sommes tous concernés par Internet aujourd'hui, et donc par ce crible. Hein. On est passé au crible, effectivement, des pages et des pages, peut-être, quand on a bien travaillé, entre guillemets, quand on a son image. Quels sont les conseils, justement, pour gérer avoir une vraie stratégie Internet? Est-ce qu'il faut respecter un certain nombre de recommandations?
Oui, d'abord, je dirais s'exposer, mais ne pas trop s'exposer. Je recommanderais bien sûr de faire appel à une société d'e-réputation parce que, je dirais, c'est consommateur de temps. Bien faire son image sur Internet, c'est consommateur de temps. Parce que vous devez intervenir dans tous les réseaux sociaux pour faire ce qu'on appelle le cyber-squatting, c'est-à-dire l'occupation du terrain avec des photos que vous avez agréées et des descriptions et de votre parcours professionnel qui est clair et qui correspond à ce que vous désirez. Donc, dès lors que vous laissez un endroit et un champ un petit peu libre sur Internet, c'est une prise de risque. Donc, vraiment, je dis maintenant, c'est tellement chronophage de s'occuper de son e-reputation que très souvent, nous intervenons dans la société DDM e-reputation, soit directement avec les managers, parce qu'on prend en charge complètement tout, soit avec les sociétés de communication presse. Alors, avec le manager, évidemment, d'abord, il n'a pas forcément la technicité pour intervenir sur tous les réseaux sociaux et savoir comment manipuler les réseaux sociaux, construire correctement un mini-site sur lui, qui est une page d'information, rien de plus, sans tomber dans quelque chose d'égotique ou quelque chose à sa gloire, je dirais. C'est vraiment, il faut rester informatif, avec une éthique, et bien conseiller son client pour qu'il sente que on lui apporte un support à son image et non pas quelque chose qui peut se transformer en une franche rigolade ou à une moquerie de son ego.
Merci voilà. Delphine Deschamps-Martel d'avoir fait le point avec nous et nous verrons dans quelques instants hein, peut-être les moyens juridiques pour faire face quand on est vraiment confronté à ce type de problème. Moyens juridiques, qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet? On verra ça dans quelques secondes.
Alors oui, j'insiste sur le fait que très souvent, la partie juridique et les moyens juridiques doivent être couplés avec une action sur le web pour pouvoir quelquefois noyer ou faire retirer des informations calomnieuses, diffamatoires ou même désagréables, tout simplement.
Bien, on voit ça dans quelques secondes. Merci.
Merci beaucoup, Didier.
Corinne Thirache, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate chez Carbonnier, Lamaz et Ral. On parlait à l'instant de e-réputation et donc de moyens peut-être aujourd'hui pour éventuellement contrecarrer ce qui se passe sur Internet. Déjà, si on peut commencer par le droit de réponse. Quand on avait un droit de réponse dans la presse papier, c'était entre guillemets assez simple, même si parfois on n'avait pas le volume souhaité de réponse. Mais sur Internet, ça existe le droit de réponse en ligne?
Tout à fait. La législation a pris en compte les nouveaux médias et a prévu un droit de réponse à insérer en ligne avec les règles que l'on connaît traditionnellement dans la presse écrite, à savoir un respect dans le délai de l'insertion, puisque nous ne pouvons pas insérer un droit de réponse au-delà d'un délai de 3 mois à compter de la mise en ligne du contenu litigieux. Et par ailleurs, nous avons aussi des contraintes assez strictes en matière de contenu à insérer, puisque nous avons une durée, une longueur qui ne doit pas excéder d'abord le contenu litigieux initial et de toute façon pas plus de 200 lignes. Donc effectivement, on doit à la fois être pertinent et à la fois bien savoir répondre de telle sorte qu'un droit de réponse ne puisse pas générer une réponse au droit de réponse, qui est toujours un effet désastreux dans les médias, surtout sur Internet, puisqu'on a un effet boomerang qui réactualise le contenu via les moteurs de recherche. Donc c'est pour ça qu'un avocat à vos côtés peut éventuellement vous suggérer de ne pas insérer, demander l'insertion d'un droit de réponse, puisque les effets pourraient être plus néfastes que l'effet recherché au départ.
Quelque part, donc, il va falloir évaluer si l'intérêt ou de ce droit de réponse en
exactement.
Ligne.
Exactement.
Puisque ça sera effectivement très différent de ce qui existait avant dans la presse papier.
Voilà, puisque vous avez un effet de, pas d'éternité, mais en tout cas de mémoire illimitée de l'Internet qui fait que les enjeux sont différents.
Alors, du côté de ce qui se passe toujours sur Internet, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est différent de ce qui se passait auparavant. Pourtant, la diffamation, les injures, il y a des règles aussi. Et ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on a tous les droits.
Exactement, la même chose. La loi 1881, donc sur la liberté de la presse, qui avait pris en compte et prévu des délits de diffamation ou d'injure publique, dispositions sont tout à fait applicables sur Internet. La chose, là encore, c'est que nous avons des délais très stricts, qui n'ont pas été pris en compte par la loi, c'est-à-dire on est toujours à compter, on ne peut pas aller au-delà de 3 mois de la mise en ligne du contenu, alors qu'avant, quand c'était dans des kiosques, on pouvait comprendre le délai, mais là, 3 mois, c'est très court, parce que c'est pas, encore une fois, à compter de la prise de connaissance du contenu, mais à compter de la mise en ligne. Et souvent, les clients nous préviennent soit à la veille, alors là, il faut aller très vite, soit carrément au-delà des délais de 3 mois. Et manifestement, nous sommes impuissants dans ce cas-là à faire jouer la diffamation. Et la diffamation, là aussi, l'avocat est là pour vous conseiller s'il faut attaquer sur le plan civil ou le plan pénal. De même, pour vous conseiller s'il y a effectivement propos diffamatoires, puisque ce n'est pas parce que les propos ne sont pas agréables à lire ou à entendre qu'ils sont pour autant diffamatoires ou injurieux, d'autant plus qu'on sait que la jurisprudence actuellement est plutôt favorable à un principe de droit à l'information, liberté d'expression de plus en plus large. Donc il faut vraiment avoir connaissance de la jurisprudence. Donc là, l'avocat est là aussi pour vous aider pour juger de la pertinence d'une action dans ce domaine-là aussi.
Voilà, parce que là, on retrouvera effectivement peut-être trop de publicité à un dossier qui peut-être aurait pu, se calmer, entre guillemets,
exactement,
tranquillement.
Par d'autres biais, comme a dû vous l'expliquer Delphine Deschamps-Martel.
Alors après, si on va plus loin, puisque ça peut arriver dans certains cas que effectivement la personne va vouloir retirer du contenu ou faire comment est-ce que c'est possible de retirer du contenu? On sait que parfois ça peut être compliqué entre tel ou tel site, tel hébergeur, savoir qui est derrière finalement site.
On va mettre de côté les hébergeurs localisés à l'étranger, notamment aux États-Unis. Je ne parlerai pas de l'affaire Twitter qui a fait grand bruit dans la presse. Si on parle des hébergeurs localisés en France, vous avez la loi LCEN de 2004 qui prévoit une possibilité de demande de retrait de contenu à laquelle l'hébergeur doit promptement déférer. Donc on considère qu'un délai de 48 heures est un délai prompt de réaction. La seule chose, c'est que la loi a prévu cette possibilité de retrait que dans des cas très précis qui ne sont pas forcément les cas, qui ne sont pas les cas diffamation en réalité, mais qui sont les cas d'atteinte à la dignité humaine, d'incitation à la haine raciale, etc. Donc c'est très très strict.
Alors un mot aussi des données personnelles. Là on a souvent sur des sites un certain nombre de mentions. Donc là on peut effectivement demander le retrait de ces données. Ça peut se faire plus facilement.
Normalement la loi de 78 sur la liberté informatique et fichiers prévoit tout à fait cette possibilité. D'une part, les gens la méconnaissent, cette possibilité, et il est vrai que quand on doit exercer ce droit, il suffit de l'envoyer à une lettre recommandée à R ou en ligne si le site le permet, il faut l'envoyer au responsable du traitement du fichier. Et là aussi, normalement, sans même motiver, on a la possibilité de faire retirer ces informations dites à caractère personnel. Donc c'est très strict aussi. Là, c'est l'identité, l'adresse de domicile, etc. Donc là aussi, un avocat peut éventuellement circonscrire le champ d'application de ce droit.
Alors, une notion dont on va de plus en plus parler, c'est le droit à l'oubli. Il y a des discussions au niveau européen à ce sujet-là, donc on n'a pas encore tous les contours de ce que ça sera. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion pour la juriste que vous êtes? Le droit à l'oubli, ça va être quoi concrètement pour la personne qui va vouloir l'exercer?
Le droit à l'oubli, c'est un terme, je dirais, multiforme, parce qu'on ne sait pas encore, la CNIL non plus s'interroge de son côté, si c'est un droit à la désindexation, au déréférencement, à la dépublication. En aucun cas, ça doit être un droit à la déresponsabilisation. On sait de toute façon que dès lors que des propos volontairement ou involontairement sont sur Internet, c'est clair qu'on ne peut pas prétendre à un droit à l'oubli. Il faudrait pas que cette notion soit déceptive vis-à-vis des personnes, parce que là, auquel cas, les gens vont effectivement être déçus. Ça doit simplement être encadré pour que... Mais c'est déjà le cas dans la loi informatique et liberté de 1970, pour que notamment dans des cas d'affaires judiciaires, quand on a fait grand cas de votre mise en examen ou d'une enquête ou d'un procès, on doit tout de suite informer du fait qu'il y a une décision de relax ou une ordonnance de non-lieu pour qu'il y ait réactualisation de l'information. Mais il y a eu déjà de la jurisprudence, notamment, je crois, un référé en 2012 qui a obtenu, qui a fait qu'une une artiste qui avait eu un passé dans le cinéma dont elle n'était pas fière, qui pourtant, à l'époque, utilisait un pseudonyme, a obtenu carrément la suppression de la vidéo qui lui portait préjudice, au nom du droit à l'oubli.
Donc liberté d'expression, droit à l'oubli, voilà, ça va se conjuguer, les deux vont se conjuguer et s'équilibrer ou pas. Merci d'avoir fait le point avec nous, Corinne Thirard. Je vous rappelle, vous êtes donc avocate au cabinet Carbonnier, Lamaze et Rall.
Merci.